d'être un chairperson, j'allais dire chairman, chairperson. C'est-à-dire que je n'ai pas à introduire de présenter de personnalité extérieure. Donc Nathalie, spécialiste reconnue du littérature du XIXe siècle, et qui s'est penchée sur le texte de 1776, un texte du XVIIIe, qui fin XVIIIe, The Wealth of Nations, et qui a travaillé sur la notion de progrès dans ce texte séminal de la pensée économique au XVIIIe siècle. Donc, la parole est à vous.
Merci. Donc, merci de votre invitation. Donc, avec Michel, nous sommes heureux de vous parler un petit peu du programme Liteco sur lequel nous travaillons ensemble depuis déjà quelques années maintenant. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des échos entre ce que nos deux communications autour de ce thème, justement. Alors, je commencerai par vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'était que la richesse ? Et puis, certainement, vous vous êtes déjà demandé comment fait-on pour devenir riche ? Alors, ce sont quand même des questions que se posent conjointement la littérature et l'économie. Si on pense au mythe de Midas, très riche, mais finalement, il ne peut pas s'en servir. Tout ce qu'il touche devient de l'or. Ou bien à King Lear, donc voilà, la question de la valeur. Qu'est-ce qui fait la richesse, finalement ? Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans le programme Liteco, c'est le fait que ce type d'interrogation est en fait une interrogation éminemment philosophique et littéraire, mais aussi une interrogation économique. Et donc, Adam Smith, évidemment, est au premier plan dans ce type de réflexion, puisque son livre, qui s'appelle « La richesse des nations », porte justement sur ce type d'interrogation. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette communication, en fait, « Le progrès ou la marche vers l'opulence », puisque votre thématique, si j'ai bien compris, est la notion de progrès. Et donc, il m'a semblé que, justement, il était possible d'explorer la pensée d'Adam Smith autour de cette question de la richesse et du progrès. Et de voir un petit peu comment lui voyait les choses. Donc, comment l'économie voit les choses par rapport à la littérature. Et est-ce qu'effectivement, il y a des poules ou est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est le type d'interrogation auquel nous nous livrons, en fait. Et qu'est-ce que la littérature peut éventuellement apporter à l'économie ou inversement. Donc, c'est un ouvrage majeur de l'histoire de la pensée économique, qui est « La richesse des nations » d'Adam Smith, mais le titre n'est pas vraiment « La richesse des nations », c'est justement la recherche sur la nature et la cause des richesses des nations. Donc, il y a une interrogation, donc il y a une forme beaucoup plus dynamique, en fait. Il y a une investigation, « An inquiry into the nation », The Nature and Causes of the Wealth of Nations. Alors, c'est un gros bouquin, donc 1000 pages, donc 5 volumes, publié en 1776. Donc, c'était un des ouvrages les plus marquants de la théorie économique. Et pour tout vous dire, c'était un livre que je n'avais jamais lu dans son intégralité. Donc, c'est chose faite. Alors, son impact se fait encore sentir aujourd'hui et on entend tout le temps parler de la main invisible d'Adam Smith sans vraiment savoir de quoi il retourne. Et donc l'idée de progrès intervient dans cette réflexion au sens où Adam Smith essaye de déterminer ce qui va faire qu'un État va évoluer vers l'opulence. Donc j'ai donc relu cet ouvrage en cherchant ce qui, selon Smith, permet cette évolution vers la richesse et je me propose d'utiliser ce fil conducteur du progrès pour nous plonger au cœur de la pensée économique d'Adam Smith et pour mieux comprendre sa manière de raisonner. Il me semble que la question qu'il se pose, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à une nation de s'enrichir et d'assurer par là le bien-être matériel de tous ses habitants, est une question fondamentale. Je pense que n'importe quel dirigeant se doit de se poser la question. Par richesse, Smith entend non seulement l'idée de subsistance, mais aussi le fait de profiter d'autres commodités, voire même de bénéficier de luxe et de loisirs. Donc il y a différentes strates dans la richesse. Alors évidemment, Smith n'est pas le premier économiste à s'être posé ces questions, mais les réponses qu'il y apporte sont-elles spécifiques à une nouvelle manière de voir le monde ? Car ce livre a quand même changé le cours des choses. Donc ces réponses continuent à avoir de l'influence de nos jours sur la pensée et sur les politiques économiques, et je vous propose donc de voir ensemble ce qui, selon Smith, permet à un État d'évoluer vers l'opulence. Donc ce sont des questions qui sont aujourd'hui encore plus que jamais d'actualité, et les réponses qui sont apportées par Smith, ou même les réponses qui sont apportées à ces questions, pas tellement par Smith, mais par ces questions, conditionnent les politiques économiques des États concernés. Alors, je vais déjà regarder quelques-uns des principaux facteurs de la marche vers l'opulence. Donc ça sera la première partie, les facteurs. Ensuite, je vais regarder comment Smith s'intéresse au processus même de progrès, donc le progrès comme processus, et ses variations en fonction des nations concernées. Et enfin, je regarderai comment Smith envisage le rôle de l'économie politique dans cette marche vers l'opulence. Donc regardons tout d'abord les facteurs du progrès selon Smith. Donc c'est le travail, la monnaie, les prix, le salaire et le capital. Alors, c'est toute la partie, les trois premiers volumes, c'est le premier ouvrage qui circule. Alors, le progrès vers la richesse est permis en premier lieu parce que Smith appelle donc les facultés productives du travail. En fait, Smith se demande ce qui fait qu'un travailleur va devenir plus efficace, ce qui va faire qu'il va produire mieux et plus vite. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on se demande, nous, pour travailler mieux, finalement. Et le principal facteur d'amélioration ou de progrès dans la productivité du travail, selon Adam Smith, c'est ce qu'il appelle la division du travail. Donc ça, c'est le terme clé de ce livre, la division du travail. Alors, naïvement, avant de lire ce livre, moi je pensais, et on pense souvent, que cette idée de division du travail a été conceptualisée avec le travail à la chaîne et le taylorisme au XXe siècle. On pense à Charlie Chaplin en train de serrer des boulons. Mais pas du tout. En fait, c'est le fruit de réflexions beaucoup plus anciennes dont témoigne ce livre. Et pour montrer comment la division du travail permet d'améliorer la productivité des travailleurs, Adam Smith utilise un exemple concret et très parlant qui illustre, il me semble, la façon de réfléchir de Smith. En fait, je trouve que ses ouvrages du 18e sont beaucoup plus simples à lire, en fait, sur la théorie économique que ne le sont des ouvrages du 20e siècle qui sont remplis d'équations mathématiques, en fait. C'est assez fascinant de voir la différence. Là, il y a vraiment un penseur, un humaniste, un philosophe, un historien, un littéraire. Et donc, Smith a une approche assez pédagogique et il propose l'exemple d'une manufacture d'épingles. Alors, ce qu'il avance, c'est qu'un ouvrier seul, même adroit, serait bien en peine de produire une vingtaine d'épingles dans une seule journée, alors que si on introduit une division du travail dans la production d'épingles, comme c'est le cas dans les manufactures de l'époque, alors la productivité augmente de manière significative. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, un peu en tant que linguiste, ça reprend un peu ce que disait Michel tout à l'heure, c'est cette description de la fabrication de l'épingle, parce que cette description est fascinante de précision. La terminologie technique qui est employée est aussi détaillée que les tâches sont segmentées. Et il me semble qu'il y a peut-être ici une source intéressante à analyser pour des chercheurs en anglais de spécialité en lien avec la théorie économique. Parce qu'on a l'impression que la langue progresse en précision à mesure que les tâches se subdivisent. Alors, juste comme un exemple, par exemple, en tant qu'enseignant, avant on faisait des choses, on ne réfléchissait pas, on les faisait. Puis maintenant, tout est morcelé, on nous dit, vous faites une séquence comme ci, puis une séquence comme ça, et à chaque fois, on donne un nouveau terme, en fait, comme si la langue, d'une certaine manière, s'enrichissait de ce vocabulaire nouveau. Donc, pour montrer comment ça marche, donc pour la manufacture d'épingles, « One man draws out the wire, another straights it, a third cuts it, a fourth points it, a fifth grinds it at the top for receiving the head. To make the head requires two or three distinct operations. To put it on is a peculiar business. To whiten the pin is another. It is even a trade in by itself to put them into the paper. And the important business of making a pin is, in this manner, divided into about 18 distinct operations. » Donc là, just for a pin. Et donc en fait là, pour le coup, on parlait de traduction, tu vois, tout à l'heure. Ah oui. Essayez donc de traduire ça. Hein, donc là, si on n'a pas du vocabulaire spécialisé, une spécialisation de la langue avec la communauté spécialisée de spécialité que mentionnait Michel, sa communauté de discours, et là, pas forcément la création d'une réalité sociale, mais la création d'une réalité qui n'existait peut-être pas auparavant, avant la segmentation. Donc Smith avance que l'accroissement de productivité est proportionnel au degré de division du travail concerné. Et il affirme que la division induit une spécialisation des travailleurs qui les rend plus adroits, à accomplir la tâche qui leur est allouée, et donc ils gagnent du temps parce qu'ils ne passent plus d'une tâche à une autre. Ils sont également plus productifs parce qu'ils ont l'aide de machines, et puis parce que les tâches sont regroupées en un seul endroit. Donc ce que Smith met en avant, c'est le gain de productivité que la réduction de la tâche de chaque ouvrier à une opération très simple permet. Et donc cette opération très simple devient la seule occupation de son existence. Et ce phénomène permet pour Smith, selon Smith, de multiplier les produits fabriqués par les différents arts et métiers, donc d'augmenter la production d'un pays et de l'enrichir. Donc on voit bien comment Smith essaye d'expliquer comment un pays s'enrichit. On va voir un peu les inconvénients de cette situation quand même. Donc on ne peut pas s'empêcher de remarquer, il me semble, des similitudes frappantes entre cette théorie de la division du travail que développe Adam Smith avec son ultra-spécialisation chez les travailleurs et la théorie plus tardive de l'évolution selon Charles Darwin. Parce que Darwin s'intéressera aussi vivement à la dextérité particulière et aux caractéristiques spécifiques qui vont découler d'une sorte de spécialisation des tâches dans le monde animal. À force de répéter, il y a le bec qui va s'allonger, etc., les ailes qui vont se modifier. Et donc, par exemple, dans La richesse des nations, on trouve des passages qui concernent l'espèce humaine qui ne sont pas sans ressembler à certains arguments de l'origine des espèces. « This division of labor, from which so many advantages are derived, is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual consequence of a certain propensity in human nature, which has in view no such extensive utility, the propensity to truck, barter and exchange one thing for another. » Donc c'est le vocabulaire d'Adam Smith, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de préméditation, si vous voulez. Les hommes ont une propension à échanger. Et Smith ajoute d'ailleurs « Nobody ever saw a dog make a fair and deliberate exchange of one bone for another with another dog. » Donc les chiens ne vont pas échanger des os entre eux, mais les hommes ont cette propension à échanger. Et de ce fait, il va se développer cette forme de division du travail et de spécialisation. Mais il n'y a pas derrière de, si vous voulez, ça n'est pas fait sciemment. De même que Darwin n'a jamais dit que l'évolution des espèces avait une espèce de finalité. Elle se produit, hein, mais il n'y a pas de... C'est pas un processus... c'est un processus qui est un peu le fruit du hasard, en fait. Hein, donc, il va y avoir un développement des espèces qui va produire ce phénomène d'évolution, mais il n'y a pas, si vous voulez, de philosophie de l'histoire, de théologie, de méliorisme, si vous voulez, derrière tout ça. Et chez Smith non plus, il n'y a pas ce phénomène-là. Donc, un autre point intéressant qui concerne cette division du travail et les avantages qu'elle procure, c'est le fait qu'elle amène les hommes à collaborer entre eux. Alors, on peut se dire, s'ils collaborent entre eux, ils sont donc solidaires. Pas du tout. En fait, c'est pas du tout parce qu'ils ont envie de faire preuve de solidarité et d'altruisme. En fait, ça résulte de motivations foncièrement égoïstes. Mais... Encore une fois, ces égoïsmes combinés produisent une forme de solidarité sociale. Alors, ce que j'aime chez Smith, c'est qu'il est toujours très concret. Donc, il a ce modèle économique qu'il est en train de construire, mais à chaque fois, il utilise des exemples concrets, soit de la vie quotidienne, de l'histoire, etc. Donc, ça rend ça très... beaucoup plus facile à comprendre que des manuels d'économie contemporains. Alors, Smith prend un exemple qu'il va généraliser. C'est celui du boucher, du marchand de bière et du boulanger. Donc le boucher, le marchand de bière et le boulanger s'associent pour fournir un bon dîner aux consommateurs. Alors ils s'associent, donc le boucher, la viande, le marchand de bière, l'alcool, le boulanger, le pain. Donc il y a une division des tâches, mais chacun, en se spécialisant dans sa profession, poursuit en fait son seul intérêt. Et le surcroît de bien-être qu'ils vont produire, donc le bon repas, n'est que simplement la combinaison de ces intérêts individuels. Chacun va se spécialiser en société parce qu'il comprend son intérêt à le faire. C'est une vision du monde là qui est intéressante, en fait. Et donc, si les hommes, pour Smith, si les hommes se portent secours entre eux, ce n'est pas par simple bienveillance, mais par calcul. Et on voit se dessiner là une vision particulière de la vie en société. Alors, une autre hypothèse émise par Adam Smith est que la division du travail et l'opulence qu'elle génère, parce qu'on peut se demander comment cette opulence va se diffuser. Ben selon Smith, il y a une espèce d'effet de généralisation pas de ruissellement, mais de généralisation, ça profite à toutes les classes de la société. It is the great multiplication of the productions of the different arts, of all the different arts, in consequence of the division of labor, which occasions, in a well-governed society, j'ai délibérément surligné ce mot-là,
oui, c'est ça.
That universal opulence will extend, which extends itself to the lowest class, the lowest ranks of the people. Every workman has a great quantity of his own work to dispose of beyond what he himself has occasion for, and every other workman, being exactly in the same situation, he's enabled to exchange a great quantity of his own goods for a great quantity of theirs. A general plenty diffuses itself through all the different ranks of the society. Donc notez cette précision well-governed society, parce que Adam Smith est en fait extrêmement critique des gouvernements qu'il considère par nature dispendieux. It is the highest impertinence and presumption, therefore, in kings and ministers to pretend to watch over the economy of private people and to restrain their expenses. They are themselves always and without exception the greatest spendthrifts in society. Let them look well after their own expense, and they may safely trust private people with theirs. Donc en fait, il y a vraiment une critique de l'intervention de l'État et voilà, de l'incitation à faire des économies. On voit bien là une méfiance envers le rôle du gouvernement dans la politique économique destinée à favoriser la marche vers l'opulence. Ce qui ne veut pas dire qu'il est contre toute intervention. Donc la division du travail qui permet de promouvoir la marche vers l'opulence et donc le progrès se fait aussi à l'échelle internationale entre les pays. Donc il y a le niveau microéconomique, le niveau macroéconomique, on voit bien que les pays eux-mêmes vont se spécialiser, par exemple la France dans la production de soieries raffinées et l'Angleterre dans la production d'étoffes de laine plus grossières. Cela étant, et c'est là qu'il y a un bémol et je vous sentais un petit peu voire remuer tout à l'heure, ce qui favorise l'accroissement de la richesse matérielle d'un pays peut être aussi une cause d'appauvrissement spirituel. Smith évoque plus loin dans La richesse des nations la perte de sens qu'implique pour l'ouvrier cette division extrême des tâches. Alors ce qui est curieux, c'est que ça apparaît vraiment au détour d'une phrase. Alors ça a été mis en avant pour dire qu'en fait il est très moral, qu'il se soucie des gens. Je ne sais pas très bien quoi en penser, en tout cas il était conscient du problème. The man whose whole life is spent in performing a few simple operations generally becomes as stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become. His dexterity at his own particular trade seems in this manner to be acquired at the expense of his intellectual, social and martial virtues. En d'autres termes, il est incapable, il devient intellectuellement un peu débile, socialement, il est incapable d'interagir avec ses semblables et il n'est même pas capable de défendre son pays. But in every improved and civilized society, this is the state into which the laboring poor, that is the great body of the people, must necessarily fall unless government takes some pains to prevent it. Donc en quelque sorte, là, le gouvernement aurait comme rôle de rectifier la barre. Comment Smith ne le précise pas vraiment, il parle vaguement d'éducation. En même temps, si on passe la moitié de sa vie au travail en train de serrer un boulon, on a du mal à voir. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème, me semble-t-il, dans le livre d'Adam Smith, une question à laquelle il ne répond pas vraiment. Et c'est là, effectivement, qu'il peut y avoir aussi un lien entre littérature et économie, au sens où la littérature, elle, s'intéresse à ce côté-là des choses, alors que l'économie, non. Donc, voilà, tout comme la littérature s'intéresse au malheur, économique, alors que l'économie s'intéresse essentiellement au bonheur et à la recherche du bonheur. Donc il y a ici, c'est pas que les deux font la même chose, en fait, elles sont peut-être complémentaires. En fait. Donc le gouvernement a ici un rôle à jouer pour empêcher cet abrutissement, mais sans fournir, on n'a pas vraiment de précision très détaillée. Donc la division du travail, donc c'est vraiment un des points clés de ce livre, va entraîner, selon la théorie d'Adam Smith, un autre phénomène économique, tout découle un petit peu de ça en fait, qui permet le progrès vers l'opulence, à savoir le développement de la monnaie. Alors, bon, le raisonnement est simple. Une fois que les travailleurs sont ultra spécialisés, donc soit ils ne consomment que le produit qu'ils produisent, ce qui évidemment mène à un problème assez rapidement, soit ils se mettent à échanger. Et donc, s'ils se mettent à échanger, là, ils ont une nouvelle difficulté, qui est que si je veux échanger un bœuf contre du sel, il faut que je donne le bœuf contre une poignée de sel. Donc, le seul moyen de régler ce problème, c'est d'inventer de la monnaie. qui permet d'échanger le bœuf contre de la monnaie pour acheter le sel. Voilà. Donc en fait, on voit bien comment le progrès, voilà la division, le progrès fonctionne en fait. Hein. Et donc la société donc va s'enrichir de cette manière-là avec l'invention de la monnaie, et notamment si elle commence à frapper monnaie, donc à avoir une monnaie officielle et non pas juste une barre, voilà, ou un morceau de bois, hein, qui peut être en plus contrefait. Voilà. Et donc ça permet aussi, avec les établissements qui frappent monnaie, les établissements publics qui fabriquent la monnaie, tout ça permet de favoriser les échanges, le commerce, l'industrie et donc la richesse. Donc, chez Adam Smith, le progrès vers l'opulence permet de comprendre un autre phénomène économique qui est l'évolution des salaires des travailleurs. Alors là aussi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. En fait, le progrès pour Smith, c'est en fait le développement économique. En fait, Smith distingue des pays qui sont dynamiques de pays qui sont stationnaires. Et il fait remarquer que dans les pays qui se développent, qu'il appelle « thriving countries », et j'étais aussi fascinée par le vocabulaire qu'utilisait. Nous, on est habitué au mot « épargne », mais en fait, le mot « épargne », on ne trouve pas dans le livre de Smith, on trouve « pince et monnaie », par exemple. Donc, il y a tout un vocabulaire du 18e que je ne connaissais pas et qu'on découvre comme ça. Donc là, « thriving », ça veut dire une économie dynamique. Et donc, les ouvriers, dans ce type d'économie, n'ont pas besoin de se coaliser, faire des syndicats, pour obtenir des augmentations de salaire, parce que la forte demande de main-d'œuvre dû à la croissance économique, va faire qu'il va y avoir des salaires élevés. Et on le voit bien dans les économies un peu dynamiques dans le monde, à divers moments, par exemple en Afrique actuellement. Et Smith affirme que, donc, en fait, donner des salaires généreux aux gens, ça permet en fait de témoigner de l'enrichissement d'une nation. Et que c'est en fait même nécessaire. Et donc, en d'autres termes, s'il n'y a pas d'augmentation des salaires, ça veut dire que la nation n'est pas en train de s'enrichir. Donc là, par exemple, on se dit, mais voilà, dans des pays où les salaires n'augmentent pas, donc est-ce que ça veut dire qu'on est dans un état soit stationnaire, soit dans un état régressif, en fait? C'est une vraie question. Et donc, Smith ajoute que si on paye des ouvriers une maigre subsistance, on n'est qu'une nation stationnaire. Si on les paye moins que ce qu'il faut pour subsister, on est dans un état où les richesses décroissent. Donc en fait, les salaires sont en quelque sorte un indicateur de richesse, en fait, de la richesse du pays. Et pour Smith, le signe d'une prospérité durable, ce n'est pas la richesse même d'un pays, mais son dynamisme. Et là, on a une conception qui est dynamique de la richesse. C'est pas une richesse statique, c'est une richesse en mouvement. Et donc, elle se manifeste en particulier par une bonne rémunération des travailleurs. Et ces rémunérations élevées encouragent, évidemment, c'est logique, si on a des rémunérations élevées, ça encourage l'accroissement de la population, soit par l'immigration des gens qui arrivent, soit la population locale. Alors il y a tout un passage assez choquant sur le travail des enfants. Ben oui, à l'époque, c'était assez courant, et notamment aux États-Unis, on disait qu'une veuve avec 4 enfants était quelqu'un d'extrêmement courtisé, parce qu'en fait, elle était potentiellement extrêmement rentable, parce que ses 4 enfants pouvaient travailler, et ça pouvait rapporter beaucoup d'argent. Donc aux États-Unis, c'était ça. Et il y a tout un passage dans ce livre là-dessus. Hein, oui. Donc, cela étant, l'augmentation des salaires a tendance à rendre les produits plus chers, puisque le produit va comprendre la part de travail qui est donc nécessaire pour produire cette marchandise. Donc ça peut être un problème, en fait. Mais parce qu'il y a une division du travail et parce que de nouvelles machines sont inventées, la productivité va augmenter. Donc les salaires vont rester élevés, mais par contre, comme il faudra moins d'ouvriers pour produire, en fait, il ne va pas y avoir une hausse des salaires significative, en fait. Hein. Donc, si vous voulez, non, la hausse des salaires va toujours avoir lieu, mais pour l'employeur, ça ne va pas être plus cher, puisqu'en fait, il aura moins de travailleurs. Il payera toujours la même chose, des salaires élevés, mais il aura moins de travailleurs parce qu'il y aura une productivité importante, donc grâce aux machines et grâce à la division du travail. Cela dit, ce que Smith ne dit pas, c'est qu'est-ce qu'il arrive aux travailleurs qui ont perdu leur travail dans le processus. Simplement, je pense qu'il est dans une logique d'économie dynamique, où le problème du chômage, en tout cas, n'est pas un problème permanent, c'est un problème temporaire, de transfert. Alors, pour ce qui est des formes de production qui génèrent le plus de richesses, Adam Smith liste successivement l'agriculture, l'industrie et le commerce extérieur. Donc, pour atteindre la richesse, selon lui, un pays ne doit pas essayer de poursuivre les trois à la fois industrie, agriculture, industrie et commerce en même temps, surtout s'il n'en a pas les moyens. Donc là, Smith donne l'exemple des États-Unis qui, dit-il, sont concentrés sur la production agricole. Et il fait observer qu'en fait, ils ont une petite production manufacturée, enfin, ils ont des produits manufacturés, mais ce sont des produits importés de Grande-Bretagne. Et puis, ils ont aussi, ils ont des produits, donc ils font du commerce extérieur avec l'Angleterre, mais c'est l'Angleterre qui gère tout ça. Donc, eux s'occupent uniquement de l'agriculture et les Anglais font tout le reste. Alors, il dit, si les Américains décidaient de tout faire eux-mêmes, c'est-à-dire le commerce extérieur, la manufacture et aussi l'agriculture, là, leur croissance ralentirait. Et alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'il dit ça au moment où justement c'est ça qui va se passer, puisqu'on est en 1776, on est au moment de la Révolution américaine. Alors tout de suite après, je ne sais pas exactement, je ne sais pas, vraiment c'est une question complètement candide. Est-ce qu'après les Anglais ont continué à commercer ou est-ce que tout s'est arrêté? Et est-ce que les Américains se sont retrouvés de ce fait à devoir gérer les trois éléments dont Smith dit que s'ils le font, justement, leur croissance va ralentir? La réponse est non. D'accord. Voilà, je voulais demander, voilà. Donc, ceci me conduit donc à la deuxième partie que je voulais regarder, c'est-à-dire au processus même de progrès dans ses variations en fonction des nations concernées. Alors, le troisième livre de La richesse des nations, donc on est toujours dans le premier volume, là, porte explicitement sur les progrès vers l'opulence dans différentes nations et sur les différences constatées entre ces nations dans leur marche vers la richesse. Donc là, j'ai repris le titre, hein, donc il y a vraiment le mot progrès dans le titre lui-même. Hein, donc on est vraiment, il y a le mot progrès, j'ai même vérifié parce que je me suis dit, bon, est-ce que je vaticine ou est-ce qu'il a vraiment utilisé ce mot et donc il utilise régulièrement le mot progrès à divers endroits et notamment au sens de progrès vers l'opulence. Et donc Smith dit... Il s'intéresse d'abord au cours naturel des choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va progresser naturellement vers l'opulence, vers la richesse? Donc, l'ordre naturel des choses, selon Smith, c'est d'abord l'agriculture qui permet la subsistance, ensuite la production de biens de commodité et de luxe. Donc, naturellement, selon lui, il doit y avoir d'abord donc, l'agriculture qui se développe avant la manufacture et la manufacture avant le commerce avec l'étranger. Donc, ça, c'est le scénario idéal. According to the natural course of things, therefore, the greater part of the capital of every growing society is first directed to agriculture, afterwards to manufactures, and last of all to foreign commerce. This order of things is so very natural that in every society that had any territory, it has always, I believe, been in some degree observed. Il faut quand même qu'il y ait un territoire suffisant pour qu'il y ait l'agriculture quand même. Donc, some of their lands must have been cultivated before any considerable towns could be established, and some sort of coarse industry of the manufacturing kind must have been carried on in those towns before they could well think of employing themselves in foreign commerce. Donc, force est de constater, cependant, nous dit Smith, que si cet ordre des choses peut paraître naturel, ce n'est pas toujours ce qui s'est passé dans les différentes nations. Adam Smith examine ainsi des scénarios, et c'est ce mot scénario qui m'intéresse ici, qu'il qualifie de contre-nature ou allant à contre-courant de cet ordre naturel qu'il vient de proposer. Donc dans ces autres scénarios, le commerce international a pu par moments amener justement la manufacture, donc on a le schéma inversé, donc on commence par le commerce international pour aller vers la manufacture, ou bien le commerce international qui permet de promouvoir l'agriculture. Donc voilà ce qu'il dit. But though this natural order of things must have taken place in some degree in every such society, it has in all the modern states of Europe been in many respects entirely inverted. The foreign commerce of some of their cities has introduced all their finer manufacture. Donc là, on a le scénario inversé. And manufactures and foreign commerce together have given birth to the principal improvements of agriculture. Et Adam Smith examine d'autres scénarios de rétrogression où la richesse disparaît même, par exemple après la chute de l'Empire romain, quand des violences découragent le commerce et laissent les terres incultes, puis que ces terres sont réunies sous la houlette de grands propriétaires peu enclins à en favoriser la mise en valeur. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le concept de scénario, parce qu'en fait, l'économie fonctionne à partir de modèles. Et là, on a un modèle économique qui est le modèle agriculture, puis manufacture, puis commerce avec l'étranger. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en fait, l'histoire économique contredit le modèle. puisque voilà, on a des tas de cas d'histoire économique qui n'ont pas fonctionné ainsi. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a, en quelque sorte, un petit peu comme nous, en fait, en littérature, par exemple, dans les contes, on a, vous savez, la morphologie des contes de Prop, où on a des petits scénarios et on essaye de retrouver les mêmes dans tous les contes. Ben là, en fait, on essaye, dans l'histoire économique, de retrouver la morphologie du conte, sauf que, voilà, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Mais voilà, c'est une force, c'est un peu une analyse littéraire, d'une certaine manière, en fait. Donc, et cette idée de, voilà, de mise en récit, de modèle, de narration... finalement c'est pas si étranger voilà. Et ça fonctionne bien dans la compréhension même en fait, c'est pas juste du cosmétique en fait. Alors la dernière chose que je voulais regarder avec vous, c'est le rôle de l'économie politique dans cette marche vers l'opulence. Donc ça c'est le dernier aspect et c'est le dernier livre là qui circulait voilà, de la richesse des nations. Et en fait cette partie examine donc l'économie politique. Alors, l'économie politique est définie par Smith comme une branche des connaissances du législateur et de l'homme d'État. Et cette branche des connaissances vise à assurer au peuple un revenu ou une substance abondante, ou une subsistance abondante. Alors ça, c'est une première chose, donc permettre la richesse du peuple. Et puis aussi, alors, Adam Smith précise bien que permettre la richesse du peuple ne veut pas dire leur donner à manger. Ça veut dire les mettre en état de se procurer eux-mêmes un revenu. Donc il y a bien une idée d'autonomie tout au long du livre de Smith, il y a une idée d'autonomie des agents économiques. Et d'autre part, l'économie politique a pour objectif de procurer à l'État ou à la communauté un revenu suffisant pour assurer le service public. Alors très franchement, pour avoir suivi des cours d'économie par le passé, je ne suis pas sûre que j'avais vraiment compris ce que c'était l'économie politique jusqu'à ce que je lise Adam Smith. Et là, si vous voulez, ce que je trouve intéressant dans la manière dont Smith exprime les choses, c'est qu'il y a vraiment une dimension existentielle dans ce qu'il dit. Alors que souvent, ces livres d'économie sont assez abstraits. Donc on considère que ça, c'est a foregone conclusion, si vous voulez. Et ensuite, on va tout de suite dans le mécanisme, mais on ne se pose pas la question de la finalité. Et lui, il se pose vraiment cette question de la finalité. À quoi sert l'économie politique en fait. Et donc dans son approche de la manière dont l'économie politique cherche à atteindre ses objectifs, Adam Smith va critiquer deux systèmes qui avaient voilà, cours à son époque. Donc le premier système, c'est ce qu'on appelle le mercantilisme, très en vogue en France, mais d'ailleurs les deux d'ailleurs. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la physiocratie. Alors le système mercantiliste, donc les deux systèmes, d'après Smith, nuisent à cette marche vers l'opulence, parce qu'il y a d'abord le système mercantiliste met trop l'accent sur les réserves monétaires des pays. Donc Smith dit, en fait, le système mercantiliste dit, en fait, pour être riche, il faut accumuler autant d'argent possible dans le pays. Voilà. Et donc à partir de là, pour avoir le plus d'argent possible, eh bien, il faut vendre le plus possible, importer le moins possible pour accumuler autant d'argent possible dans le pays. Et Smith dit, en fait, ça va complètement à l'encontre des échanges commerciaux et c'est contre-productif, en fait. Donc ça, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Et Smith fait observer, donc encore une fois, que l'Amérique a enrichi l'Europe, non pas parce que ça a permis de l'importation de l'or et de l'argent, même si ça l'a permis, entre autres, mais surtout parce que ça a permis le développement du commerce qui a élargi le marché et donc favorisé de nouvelles divisions du travail, de nouvelles innovations industrielles. Donc on a encore ce mécanisme initial qui apparaît ici, mais au niveau de la politique d'ensemble du pays. Donc Smith se fait l'avocat d'un commerce qui est sans entrave, mais c'est ça qui je trouve intéressant, il n'est pas pour autant favorable à la domination des intérêts marchands et industriels, parce que parfois, quand on entend parler de Smith aujourd'hui, le capitalisme, le libéralisme, etc., on a l'impression que Smith, c'est vraiment le laisser-faire complet, et pas du tout, en fait. Smith dit... Nations that have been taught that their interest consisted in have been taught that their interest consisted in beggaring all their neighbors. Donc une vision très négative du commerce. Each nation has been made to look with an invidious eye upon the prosperity of all the nations with which it trades and to consider their gains as its own loss. Commerce, which ought naturally to be among nations as among individuals, a bond of union and friendship, has become the most fertile source of discord and animosity. Donc le commerce comme quelque chose d'hostile, d'agressif, c'est pas du tout ce que Smith a à l'esprit, en fait, même s'il y a de la concurrence. Et donc il dit que c'est en particulier cette ambiance détestable qui règne dans le commerce international est due en particulier à « the capricious ambition of kings and ministers has not during the present and the preceding century been more fatal to the repose of Europe than the impertinent jealousy of merchants and manufacturers ». Donc quand on pense aujourd'hui un peu au... Voilà. Mm-hmm. Voilà, c'est intéressant.
Merci. Je trouve.
Voilà. Et il ajoute... The violence and injustice of the rulers of mankind is an ancient evil, but the mean, rapacity, monopolizing spirit of merchants and manufacturers neither are nor ought to be rulers of mankind. Et donc, parfois, on considère que Smith a un peu introduit le règne de l'économique, le tout économique, et en fait, pas vraiment, en fait. Donc, quant au système de l'agriculture que combat également Adam Smith, donc il s'agit de la physiocratie, qui présentait donc le produit de la terre comme la seule source du revenu et de la richesse d'un pays. Donc l'idée, c'est que l'agriculture, c'est la seule source de richesse. Et Smith reproche aux physiocrates, des gens comme Quesnay, par exemple, de catégoriser les artisans, les manufacturiers et les marchands comme étant stériles et improductifs, au sens où ils n'augmentent pas le revenu réel de la société. Alors, dans Smith, il y a une distinction, il y a des chapitres sur le travail productif et le travail improductif. Le travail improductif, c'est par exemple le travail d'un domestique qui, dès qu'il aura fait son travail, rendu son service, ce travail disparaît, il n'y a plus de traces. Par contre, un artisan va produire un objet qui va perdurer. Alors évidemment, il y a un autre problème qui n'est pas pris en compte ici, mais que Smith prend en compte par ailleurs. Vous allez me dire, mais il y a aussi tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire un prof qui fait cours, il fait cours et puis après, il ne reste plus rien, mais ça ne veut pas forcément dire, voilà. Donc ça, c'est encore autre chose, mais Smith n'en parle pas vraiment, en fait. Il parle de la rémunération des profs, donc visiblement, il les considère des avocats, etc., tous les gens qui rendent des services. Donc, il dit que ces gens ont une éducation, une très grande éducation, donc ils méritent un salaire important. Donc il y a visiblement pas la même... Voilà, ils ne considèrent pas que c'est du travail improductif comme le travail du domestique, mais je n'ai pas bien réussi à cerner ce qu'il faisait de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, en fait. Ça, je pense qu'il ne va peut-être pas théoriser ça. Donc, en tout cas... Pour favoriser la marche vers l'opulence, Smith prône d'écarter ces deux systèmes précédents pour favoriser un système de liberté naturelle par lequel tout homme, du moment qu'il n'enfreint pas les lois de la justice, peut poursuivre son intérêt. Voilà. Oui, j'ai fini.
Parfait.
Peut poursuivre son intérêt. Et donc éventuellement, porter son industrie et son capital. Alors là, je vais vous lire la citation probablement. La plus célèbre, la plus célèbre de Smith, que tout le monde connaît sans connaître, celle de la main invisible. Donc il n'est pas nécessaire pour l'État d'intervenir ici, puisque les individus poursuivent consciemment leur propre intérêt, mais servent inconsciemment la richesse collective comme s'il y avait une main invisible. As every individual, therefore, endeavors as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value. Every individual necessarily labors to render the annual revenue of the society as great as he can. He intends only his own gain and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand, la voilà votre main visible, to promote an end which was no part of his intention. Et donc ça, c'est vraiment la citation la plus célèbre. Tout le monde va vous sortir la main invisible à toutes les sauces, mais absolument personne ne sait d'où ça sort, en fait. Enfin, très peu de gens savent d'où ça sort, et donc là, vous voyez exactement dans son contexte. Donc finalement, le souverain n'a que trois missions à accomplir. Donc garantir la sécurité de ses citoyens contre la violence extérieure, garantir la sécurité des citoyens contre d'autres citoyens, et puis entretenir les infrastructures publiques, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, hein. Et donc, c'est l'objet du dernier livre de ce monumental ouvrage, qui est « La richesse des nations ». Donc, j'espère, en conclusion, avoir réussi à vous montrer comment Smith décline à sa manière l'idée d'un progrès vers l'opulence, comment il s'efforce de déterminer ce que doivent faire ou ne pas faire les États et leurs citoyens, mais aussi le système international, pour arriver à cette richesse collective. C'est une question qui est encore brûlante aujourd'hui, et cette lecture nous montre, que la démonstration d'Adam Smith est beaucoup plus subtile et nuancée que ce qui est souvent dit de lui quand on le présente, par exemple, comme le père du capitalisme libéral. Voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de passerelles avec cette idée de communauté de discours, parce que là, finalement, ce qu'on a fait, c'est un retour au spécialisé, en quelque sorte, qui est le discours spécialisé d'Adam Smith, qui a inventé toute une terminologie et qui a permis une avancée dans son domaine, voilà, et qui produit toute une communauté de discours autour de, voilà, autour de ce livre, en fait, qui existe encore aujourd'hui.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Nathalie pour cette présentation.